1069 ou par texto
98985.
Dans le contexte où on veut ramener peut-être une équipe de baseball à Montréal, construire un stade tout neuf, dans un contexte où à Trois-Rivières, on a du baseball de haut calibre, et dans le contexte où je suis moi-même un amateur de baseball, quand j'ai vu passer le livre en question, je me suis dit, tiens, il faut que je parle à Frédéric Daigle, sans dévoiler de grands secrets, mais il y a quand même dans son livre « Chips, Peanuts, Cracker Jack », 24 histoires savoureuses autour des expos, impliquant notamment Roger Deslandry, qui nous a quittés il y a quelques mois. Roger Deslandry, qui est le papa, hein, le paternel de Youpi,
ben oui,
qui est
ben
devenu
oui,
la
oui.
mascotte du Canadien de Montréal. Et je me souviens, moi, Roger, je l'ai côtoyé à quelques reprises. Il m'a déjà raconté comment est-ce que la mascotte avait été créée. Je vais voir si mon histoire coïncide avec celle de Frédéric Daigle. Bonjour, Frédéric.
Hey, bonjour à vous deux.
Parce que tu racontes l'avoir rencontré à la Landrière chez lui quelques mois avant son décès.
Absolument, j'ai été reçu comme un roi par ça. M. Landry nous avait préparé un lunch, la bière était au frais. Vraiment, j'ai été accueilli là comme pas un.
Oui, effectivement. Je ne sais pas si vous avez fait un petit steak sur le charcoal, là, le feu de bois, là, c'était l'une de ses spécialités. Cela étant dit, Roger Deslandry, on lui accorde ça. Deux grands exploits. Un, d'avoir amené le baseball à la radio et à la télé, et d'avoir créé cette mascotte qui est encore en vie aujourd'hui.
Oui, mais c'est un... c'est une anecdote qui est... Ben, pas une anecdote, en fait, c'est une histoire très intéressante et M. Landry, c'est la seule personne rencontrée pour ce livre-là à qui j'ai un peu, en quelque sorte, imposé le sujet parce que j'avais entendu plusieurs versions différentes de la création de Youpi et je voulais avoir la vraie histoire. Mais par la suite, bon, toute l'histoire là, de un peu de l'arrivée dans l'ère moderne de la diffusion des matchs, là, ça, c'est un ajout qui était bienvenu à notre rencontre. Mais oui, M. Landry m'a expliqué un peu comment le hasard a fait que Charles Bruntman a été mis sur sa route. Mais surtout comment, arrivant en poste, il a dû réaliser que rapidement, une de ses premières tâches importantes, ce serait de dire à M. Bruntman que la mascotte dessinée par ses enfants, ben ça marchait pas bien, et que ça en prenait une autre. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai écouté cette histoire-là. Et puis, vraiment, on apprend. C'est les mêmes gens qui ont créé Youpi, dans le fond, c'est les gens qui étaient derrière les Muppets. Je pense que c'est Anderson et Hanson, là, le nom m'échappe, là, j'ai
ça,
un blanc de mémoire.
Vous avez raison, mais... oui, vous avez
bon,
raison.
Bon, alors, c'est une firme très connue des États-Unis qui ont aussi créé là, le Philly Fanatic et le Famous Chicken, la mascotte qu'on voit parfois au match des Padres de San Diego. Alors, c'est des gens qui connaissaient leur affaire et M. Landry, dans sa carrière, acceptait rarement des demi-mesures. Alors, il n'a pas pris de chance, il est allé directement vers la meilleure firme pour faire créer cette mascotte-là.
Puis, il vous a raconté comment ils avaient trouvé le nom?
Oui, absolument. Ils cherchaient... comment appeler cette mascotte-là qui était dessinée, qui était prête. Les premiers prototypes avaient été présentés à l'organisation des expos. Et puis, il était assis dans son bureau avec Roger Brilla. Puis, il discutait avec lui. Il disait, je sais pas comment appeler ce mot mascotte-là. Il dit, moi, je veux que le monde crie Youpi quand il va arriver dans la place. Et puis, Roger lui a dit, ben, tu l'as ton nom, appelle-la Youpi. Et c'est resté.
C'est ça. C'est la bonne histoire. Alors, on voit que la source est fiable. Frédéric Daigle,
oui.
24 histoires savoureuses autour des expos, parce qu'on va quand même inviter les gens à se procurer le livre, mais on pourrait peut-être en révéler deux, trois, là, autres que celles dont on vient de parler.
Oui, mais écoutez, moi, comme j'expliquais un peu plus tôt, tout ce que je demandais aux gens, c'est de me raconter leur plus belle histoire en lien avec les expos. C'était même pas obligé d'être en lien avec le baseball. Et les gens, à partir de là, sont allés dans différents sujets, différents endroits, et ça donne on recouvre l'histoire des expos là, de 68 jusqu'à la dernière saison 2004, vraiment dans toutes les directions. Par exemple, Steve Rogers, quand je l'ai approché, je sentais qu'il était pas très chaud à l'idée, jusqu'à temps que je lui dise « Steve, je veux surtout pas entendre parler de Blue Monday, on l'a lu, on l'a entendu des milliers de fois ». Je suis certain que tu as d'autres souvenirs de ton association avec les expos. Et puis là, j'ai senti au bout du fil que Steve Rogers était drôlement plus réchauffé à l'idée de passer quelques heures en ma compagnie pour me raconter ça. Puis Steve, son histoire, une de ses histoires, c'est vraiment fabuleux. Il a été un quatrième choix au total, lui. Et les trois joueurs avant lui sont présentés à leur premier camp professionnel et puis ils ont fait l'équipe des majeurs immédiatement. Alors, dans la même optique, lui, il se présente cette année-là, puis il était convaincu dans sa tête qu'il était rendu. Le travail, c'était fini. Il récoltait les fruits de ses années à l'université maintenant. C'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Même si les Expos n'étaient pas une puissance des majeurs à ce moment-là, il n'y avait pas de place pour lui au sein de la rotation. Et ça lui a donné une bonne claque au visage que d'être rétrogradé dans les ligues mineures. Et puis, ça y a pris quelques saisons avant de s'en remettre, avant de vraiment se dire, bon, ben finalement, il va falloir que je me retrousse les manches puis que je la gagne, cette place-là. Et puis, à ce moment-là, le déclic s'est fait. Et puis, il a connu la brillante carrière qu'on sait par la suite. Mais quand même, moi, c'était la première fois que j'entendais Steve Rogers parler de cette façon-là, de ses débuts difficiles, parce que il s'était pas préparé mentalement à travailler pour atteindre les majeurs. Et puis, une autre histoire que j'aime beaucoup, moi, c'est celle d'Alex Agostino, dépisteur professionnel pour les Phillies de Philadelphie maintenant, mais qui a commencé sa carrière avec les Expos. Je savais que il avait eu quelques accrochages avec la haute direction des Expos, mais vraiment, ce qu'Alex me raconte, c'est beaucoup de rancœur à l'endroit de la direction, particulièrement à l'époque de Claude Brochu, parce qu'il me dit « j'ai moins de difficultés à mettre sous contrat présentement avec les Phillies de Philadelphie, un Québécois, que j'en avais avec les Expos à l'époque. » Une attitude qui, selon lui, a coûté Éric Gagné et Russell Martin aux Expos.
Bon, en tout cas, regarde, on va faire une chose, là. On va se reparler, nous, éventuellement. C'est trop intéressant de t'entendre raconter les entrevues que tu as faites. Frédéric, je te remercie beaucoup pour le temps passé, puis on se reparle cet été, c'est sûr.
Bien, c'est parfait. Merci beaucoup de l'invitation.
À bientôt. Auteur, journaliste Frédéric Daigle, 24 histoires savoureuses des Expos, disponibles aux éditions de l'Homme.